Nous savons que la conférence de l'après-midi, c'est une conférence d'évangélisation. Et j'en profite tout de suite pour vous dire, si quelqu'un ici n'est pas encore sûr d'être sauvé, sûr d'aller au ciel, prenez le temps de réfléchir. Nous avons parlé cet après-midi de trois histoires de deux hommes. C'est intéressant. Les chiffres. Un, par exemple. Un, c'est l'unité. Dans un mariage, deux personnes s'unissent. On dit qu'ils prennent le même nom. Les deux deviennent un. C'est l'unité. Mais deux, c'est un chiffre aussi qui exprime la division. On arrive devant un Y sur la route. Il y a deux chemins possibles. On ne peut pas les prendre les deux. Il faut en prendre un. Et l'autre, ben, c'est celui qu'on n'aura pas pris. Et donc, on a des choix à faire. Quand on arrive devant les Grecs, chaque pas qu'on fait sur une voie nous éloigne autant de l'autre voie. Et si on se trompe de voie, il faut revenir à les Grecs et repartir dans l'autre sens. Donc, les choix sont toujours importants. Et dans la Bible, Dieu a beaucoup utilisé des histoires à deux. Par exemple, Jésus, dans ses paraboles, deux hommes montèrent au temple pour prier. Vous vous souvenez? Deux hommes bâtirent une maison, le sage et l'insensé. Deux portes, il dit, une est large, l'autre est étroite. Deux chemins, l'un est spacieux, l'autre est resserré. Deux femmes au moulin, l'une est prise et l'autre est laissée. Deux hommes dans un champ, l'un est pris et l'autre est laissé. C'est dire aussi, Jésus a beaucoup parlé du sujet de deux. De deux personnes qui sont ensemble, que tout semble unir. Peut-être ils se ressemblent, pourtant ils sont très différents. Et souvent leur fin est très différente. Chacun ici, je suppose, ou presque tous ici, pensez aux membres de sa famille. Pour la plupart d'entre nous, on a des frères et des sœurs qui ne sont pas au Seigneur. Et on dit, mais comment se fait-il qu'on a les mêmes parents, on est sorti du même sein maternel, on a eu la même éducation, et comment se fait-il que je connaisse le Seigneur et je sais où je vais passer l'éternité et que mes frères et mes sœurs, ou plusieurs d'entre eux, ne savent pas. Et pourtant, on était dans la même famille. Donc Jésus a beaucoup évoqué ce sujet. Mais pour commencer, sa première histoire de deux hommes, c'est les deux premiers hommes, un être du premier couple, c'est Caïn et Abel. Et nous lisons dans Genèse chapitre 4 cette histoire impressionnante. Parce que jamais, en voyant Adam et Ève, leur création et tout ça, jamais on ne pourrait penser qu'un drame se produirait si tôt dans l'histoire humaine. À peine quatre personnes, du moins la Bible ne parle que de quatre personnes, et tout de suite c'est ramené à trois personnes. Parce que la troisième personne a tué la quatrième. Mais Caïn et Abel plutôt étaient un. Ils avaient les mêmes parents, d'ailleurs les seuls parents qu'il y avait à l'époque, Adam et Ève. Ils avaient la même instruction parce qu'Adam et Ève a dit la même chose aux deux. Adam et Ève connaissaient l'Éternel. Souvenez-vous, avant la chute, ils lui parlaient tous les soirs dans le jardin d'Éden. Et après la chute, Dieu est venu auprès d'eux pour leur parler, pour les réhabiliter, pour faire un sacrifice, pour les revêtir de peau. Ils savaient qui était Dieu. Et ils se sont pas privés d'en parler à leurs enfants. Ils avaient la même nature pécheresse. Dommage, hein? Ève a été séduite. Adam a péché volontairement. Et la Bible dit qu'en Adam, tous sont péchés. C'est par l'homme que la nature pécheresse est communiquée à chaque être humain. Comme les deux hommes avaient Adam pour père, ils avaient la nature dite adamique, pécheresse. C'est-à-dire, Abel pouvait pécher comme Caïn pouvait pécher. Ils avaient la même capacité de pécher. Mais ils avaient aussi la même possibilité de connaître Dieu. Ils étaient un, ils étaient unis. On aurait pu dire, mais voilà, ils ont tout. Ils savent tout, tous les deux. On pourrait dire, spirituellement, ça peut être des jumeaux. Et les deux, ben, auront un seul point de vue, auront une seule démarche. Et pourtant, malgré ça, tout ce qui les unissait, il y avait des choses qui les divisaient, qui les séparaient l'un de l'autre. Par exemple, Caïn. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Sans doute, c'était innocent ce qu'elle a dit. J'ai acquis un homme. C'est vrai. Dieu lui a donné un fils. C'est drôle, hein, la manière dont elle a traité cette première naissance. Imagine la première naissance. Quand son ventre grossit et tout à coup, elle sent les contractions, c'est la première fois de l'histoire, et sort d'elle un bébé humain. Tout petit, mais comme elle et comme Adam. Et elle dit à son mari, regarde, j'ai acquis un homme, c'est mal, j'ai acquis un homme par l'Éternel. Dieu a permis que cette naissance ait lieu, on n'avait pas tort. Toutes les personnes qui naissent dans le monde, c'est par l'Éternel qu'ils naissent. Mais le mot Caïn veut dire acquisition, acquisition. Et Caïn, c'est ça, toute sa vie, c'est acquisition. C'est un travailleur, car attention, c'était pas un paresseux. Il faisait du jardinage. Souvenez-vous, c'était plus le jardin d'Éden. Dieu avait maudit la terre, donc il avait droit à des mauvaises herbes, il avait droit à des épines, il avait droit à des ronces et tout ce qui fait le malheur des jardiniers aujourd'hui, déjà lui l'avait. Mais il a persévéré, il a labouré la terre, il a travaillé, il avait un beau jardin potager. Il avait confiance dans ce qu'il pouvait faire, comme on dit, de ses 10 doigts. Et Dieu lui demande de rendre un culte. Enfin, il savait. D'ailleurs, la Bible ne dit pas qu'Adam leur a ordonné de rendre un culte. Ils savaient qu'ils devaient rendre un culte à Dieu. C'était en eux. Adam peut-être leur montrait le bon exemple, mais les deux fils ont décidé de rendre un culte à l'Éternel. Et son culte à lui est refusé. Il fait un sacrifice à l'Éternel. Dieu refuse son sacrifice. Et suite au refus de ce sacrifice, quelque chose sort de son caractère. C'est la rébellion et la colère. Jusque-là, on n'avait pas vu que Caïn, comme on dit, avait un mauvais fond. Mais quand il fait une offrande à l'Éternel et que Dieu le refuse, au lieu de dire « Pardonne-moi, je vais faire comme tu veux » parce qu'il savait ce que Dieu voulait. Il dit, alors c'est comme ça, rebelle. Il est rebelle. Et même quand Dieu lui parle, parce que Dieu lui fait un peu de cure d'âme, hein, il lui dit, mais ne sois pas comme ça. Offre ce que tu dois offrir. Le péché se couche à ta porte et domine sur lui. Et ça veut dire deux choses. D'abord, le péché se couche à ta porte, le péché n'est jamais très loin de nous. Hein. La rébellion n'est jamais très loin. Trouvez pas. L'orgueil est juste à la porte, tout le temps. Prêt à entrer si on ouvre la porte. Et le Seigneur lui domine sur le péché. Dit non au péché. Mais en même temps, il y a une autre explication que je trouve très touchante. C'est que souvent, on appelait le sacrifice pour le péché, le péché. Un sacrifice qu'on allait offrir sur l'autel, l'agneau pour le péché, on appelait le péché. C'est-à-dire parce que c'est un sacrifice pour le péché. Et ça, on le voit dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, Jésus-Christ, il, le Père, l'a fait devenir péché pour nous. Jésus n'est pas devenu péché, mais je parle, devenu le sacrifice pour le péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, Dieu lui dit, et sans doute c'était vrai, Abel ne lui aurait pas refusé un agneau. Il avait de quoi le payer. Il aurait pu acheter son agneau de son frère. Parce qu'il avait des agneaux. Amen. Et Abel et Caïn savaient ce qu'il fallait offrir à l'Éternel. Ils n'avaient qu'à demander à son frère, tu me donnes ou bien je t'achète un agneau. Hein. Les bons comptes font de bons amis, pas de problème, on va offrir un agneau. Mais il se peut que même Abel, nous on ne sait pas, mais il se peut qu'Abel ait amené l'agneau à la porte de Caïn. Parce que si c'est ça, alors le sacrifice pour le péché, qui me va bien, est à ta porte. Tu as tout ce qu'il faut. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, ça, c'est la vérité parce que tu as tout ce qu'il faut pour faire un sacrifice que j'agréerai. Et il n'y a rien qui t'empêche de faire le bon sacrifice. Tu n'as pas fait le bon sacrifice, je l'ai refusé, tu peux te rattraper, tu peux faire le bon sacrifice. Mais Caïn ne veut rien savoir. Cette rébellion à Dieu et à son conseil devient une ruse meurtrière. Parce que la Bible dit, quand dans le verset 8, Dieu sait que Caïn en a après Abel maintenant. C'est la jalousie. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Donc, il est tout gentil avec Abel. Il lui parle. Tout semble normal. Les parents ne se doutent de rien. Mais Caïn attend son heure. Et le jour vient quand il est seul avec son frère dans les champs. Il en profite pour le tuer. La rébellion, la ruse, le meurtre. Ce n'est qu'après le déluge que Dieu va instaurer la peine capitale pour homicide volontaire. Il ne tue pas Caïn ici. Il condamne Caïn à une vie d'errance. Lui qui avait la main verte, lui qui aimait bien le jardinage, lui qui se serait bien vu comme sédentaire, peut-être un fermier, un primeur. Il est obligé d'être vagabond sur la terre, de marcher long en large, jamais avoir un chez lui convenable d'être un vagabond. C'était une vraie punition pour lui. Il va être vivant, mais maudit. Maudit par Dieu. Avec une signe sur son corps qu'il est un meurtrier et qu'il sera maudit par l'Éternel. Mais laissé en vie quand même. C'est terrible. Et ça rappelle ce qu'est l'enfer. La Bible parle des gens qui seront en enfer comme des astres errants. Ils vont pas être enfermés dans une caverne avec des flammes oranges qui les brûlent. Non, ils vont être vagabonds, peut-être dans l'espace, des astres errants, sans direction, sans jamais se reposer, dans une chaleur intense, maudit par Dieu, vivant toujours, ressentant la flamme de la punition éternelle. Voilà le sort de Caïn. Abel, il a un tout autre destin. Le mot Abel veut dire exhalation, comme ça. Ou ce qui monte. Et Abel, donc, même son nom, évoque une prière. La exhalation, le cri de mon âme qui s'élève vers Dieu. C'est un homme qui a les pensées tournées vers l'Éternel, contrairement à son frère. Et alors, quel est son culte? Il a confiance dans le sang. Il a confiance dans le sang de l'agneau qu'il va offrir. Et il a dû savoir peut-être que ce n'est pas l'animal lui-même qui pourra payer pour son péché, mais en tous les cas, c'est ce que Dieu a demandé pour couvrir le péché, offrir un animal, l'égorger, verser le sang à terre, parce que le sang appartient à Dieu, c'est la vie, offrir l'animal en holocauste. Je suis le pécheur, c'est moi qui devrais mourir, cet animal innocent meurt à ma place. Sa confiance est dans le sacrifice du sang. Ce culte est accepté. Seul un animal innocent qui meurt donne une petite image de la gravité du péché. Ce n'est pas quelques légumes et fruits, même s'ils sont très beaux, qui vont racheter le péché. Le péché, l'Église catholique dit, il y a des péchés véniels et des péchés mortels. Tous les péchés sont mortels. Tout péché amène à la mort. Et donc, il offre un animal qui meurt pour ses péchés. Son culte est accepté. Il est obéissant. Abel est obéissant. Cain, rusé, avec le meurtre dans le cœur, Abel, naïf et innocent. Son frère lui parle, il ne se doute de rien, il ne se méfie pas. Il est dans la foi et la confiance. On aurait dit, pauvre naïf, qu'est-ce qu'il est bête. Non, il y a une beauté dans cette attitude. Déjà lui, il est animé de bons sentiments. Il n'attribue à son frère aucun mauvais sentiment. Il est innocent. Il est naturel. Il est honnête avec Dieu, avec les autres. Il devient la victime. C'est lui qui meurt. Imaginez quand Caïn a vu son frère gisant à terre, mort, le premier meurtre. Qu'il a compris, mais finalement, les humains meurent comme les animaux. On n'avait jamais vu un cadavre humain jusque-là. C'était le premier. Est-ce que Caïn savait qu'il pouvait tuer son frère? On ne sait pas. En tous les cas, il l'a fait. Mais c'était trop tard. Et en plus, quand Dieu dit, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Quelle provocation. Dieu avait tout vu. Pauvre Abel, il est mort. Il est mort prématurément. Je suis sûr qu'Adam et Ève se sont dit, comme beaucoup de parents aujourd'hui, oh, si quelqu'un devait mourir, on aurait préféré que ce soit nous les parents, pas nos enfants. Hein? Tous les parents disent ça. Mais c'était trop tard. Leur deuxième fils était mort. Son seul crime était d'obéir à Dieu. Ça, c'est l'image encore de l'Église persécutée aujourd'hui. En tout temps, on a tué des gens dont le seul crime, c'est vouloir obéir à l'Éternel. C'est le premier dans une longue lignée glorieuse de martyrs. De martyrs pour la foi. Ils ont suivi deux voies. Caïn, sa voix, on l'explique en chapitre 4, versets 16 à 22. Et là, verset 16, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. C'est pas le Enoch qui a marché avec Dieu, c'en est un autre. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Et puis vous avez la liste des gens. Mais verset 21, le nom d'un de ses petits-enfants était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Et puis Tubal-Caïn, qui forge tous les instruments d'airain et de fer. Caïn, pour le monde aujourd'hui, il a réussi sa vie. Ça a mal commencé, il a tué son frère, c'est dommage. Mais quand même, il s'est un peu racheté. Il a fondé une civilisation. Et ses fils ont inventé la technologie, le travail sur le fer, des instruments de musique, des villes. C'est fondateur d'une civilisation. C'est merveilleux. On dit, quel homme, cet homme, ses enfants, ils sont doués. Oui, ils sont doués. C'est la ville citadine et pastorale, les arts et l'industrie. On a l'impression, mais finalement, ça va plutôt bien. Il y a tout ce qu'il faut. Mais regardez la mentalité morale de cette famille de Caïn. Parce que, verset 23, Lémec, un de ses arrière-petits-fils, déjà c'est le premier polygame, c'est un bigame. Lémec dit à ses femmes, Ada et Sia, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il prend ses deux femmes à côté pour se vanter devant elles. Il dit, un jeune homme m'a blessé. Alors moi, je l'ai tué. Puis il est fier. J'ai tué un jeune homme. Il dit, mon arrière-grand-père, il a tué son frère qui lui a rien fait. Et Dieu a dit qu'il vengerait 7 fois celui qui tuerait Caïn. Mais moi, j'ai tué un jeune homme parce qu'il m'a blessé. Alors là, si on me tue en moi, Dieu me vengera 77 fois. Il est en train de se vanter du meurtre qu'il a commis sur la personne d'un jeune homme et dire, Dieu est de mon côté, moi le meurtrier. C'est d'un... Comment dire? C'est tellement vantard, c'est tellement horrible quelle mentalité. Voilà la mentalité de la civilisation de Caïn. Et sur le plan de la religion, la Bible dit, il nie la rédemption par le sang. C'est en 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. 2 Pierre 2, 1. Il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Renier le maître qui nous a rachetés, renier la rédemption par le sang. Ça, c'est toute l'histoire de Caïn. Je n'ai pas besoin d'un sacrifice de sang. Je n'ai pas besoin qu'un innocent meure pour mon péché. Mon péché, ce n'est pas très grave. Je peux me racheter en offrant à Dieu quelques fruits et légumes. J'ai péché, c'est à moi de réparer en faisant quelque chose de mes mains. Oh, je vais suer un peu, mais j'arriverai à me racheter par ce que moi, je peux faire pour Dieu. Voilà, Caïn, voilà sa religion, voilà sa foi. Abel, ben, il n'a pas eu trop le temps, mais il a quand même donné un message. Dans Hébreux chapitre 11, verset 4, nous avons le message qu'il communique, que sa vie a communiqué. Hébreux chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, par sa foi, qu'il fut déclaré juste, en Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle, par sa foi, qu'il parle encore, quoique mort. Alors, on n'a aucun discours d'Abel, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dirigé par l'Esprit, parce que c'est inspiré de Dieu, nous permet de voir ce qui se passe dans le cœur d'Abel. Nous savons par ce verset qu'Abel n'a pas fait son sacrifice parce que son père lui a dit « c'est comme ça que ça se fait ». Il ne l'a pas fait parce que c'était une tradition. Il l'a fait parce qu'il a placé sa foi dans le sacrifice et dans le substitut qu'il a sacrifié sur l'autel. C'est parce qu'il a cru Dieu qu'il a fait cela. Et par cette foi, donc, il parle encore, quoique mort. On n'a aucun discours d'Abel, mais depuis qu'il est mort, son message résonne dans l'histoire. Donc il est mort, mais il est béni. Il a vécu par la foi, il a été martyrisé par obéissance. Il montre le pardon, il est notre exemple. Et il montre que le sang, le sacrifice du sang, amène la justice. Car Dieu l'a déclaré juste, Abel. On le trouvera dans le ciel. Voilà Caïn et Abel. Maintenant, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Luc chapitre 18. Les deux autres sont des évangiles. Luc 18. Donc, ça, c'était l'histoire de deux religions. Caïn, sa religion, et d'ailleurs, la religion de Caïn est encore très largement pratiquée aujourd'hui. Même dans l'Église catholique romaine, c'est la religion de Caïn. Comment ça se fait? Mais oui, c'est l'Église qui vous donne le pardon. C'est le purgatoire qui vous purgera de vos péchés. C'est l'absolution du prêtre qui efface votre péché. C'est le sacrifice du Christ que nous renouvelons sur nos autels qui vous donne le pardon. Tout sauf le sang du Christ versé une fois pour toutes pour l'humanité à la croix du calvaire. Et c'est là que c'est grave. Dans le bouddhisme, c'est encore la religion de Caïn. Ils disent, vous ne trouverez pas la vérité dans un livre. Vous trouverez la vérité en vous-même. C'est vous, votre propre sauveur. Une religion de Caïn. Dans l'islam, c'est la religion de Caïn. Soumission à Allah. Vous ne pouvez jamais rien savoir de votre avenir jusqu'après votre mort. Dieu décidera comme il voudra. Mais vous devez faire tout ce que vous pouvez faire pour attirer sa faveur. C'est la religion par les œuvres. Toutes les religions humaines sont sur le modèle de Caïn. Et c'est intéressant que toutes les religions de l'homme tuent les gens quand elles le peuvent. Comme Caïn, pareil. La vraie religion, la vraie foi est martyrisée, mais ne persécute jamais personne. Je voulais juste dire une chose par la question de l'histoire de l'Église. Il y a, à travers l'histoire jusqu'à les 200 dernières années, quand on a eu beaucoup de groupes évangéliques qui sont arrivés, mais à travers l'histoire, depuis 2000 ans, il y a un groupe qui n'a jamais persécuté des gens, n'a jamais persécuté personne, mais qui a été persécuté par dizaines de milliers et par millions. Ce n'est pas eux qui en parlent, c'est un cardinal catholique du Concile de Trente qui le dit. Ce cardinal a dit, si nous n'avions pas résolument retranché par le glaive des baptistes depuis 12 siècles, ils fourmilleraient en plus grand nombre que tous les réformateurs. C'est quelque chose de dire ça. Pour un prélat catholique de dire, notre Église a tué les baptistes depuis 1200 ans. Pourquoi? Parce que les baptistes, et ils ont eu plusieurs autres noms, hein, on n'est pas là pour défendre le mot baptiste, mais les gens qui ont suivi le Nouveau Testament, qui ont pris la Bible comme la parole de Dieu et qui ont voulu la mettre en pratique textuellement, ont très bien compris l'enseignement de Jésus. Nous, on prêche l'Évangile. On combat pour la foi. On ne tue personne, on ne persécute personne. Les gens n'ont besoin de croire parce qu'ils ont compris. C'est Dieu qui jugera. Ce n'est pas aux hommes de juger. Mais quand vous êtes une religion où Jésus-Christ n'est pas au centre, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, il faut que ma religion domine. Et pour ça, je dois faire la guerre aux autres religions pour les détruire, pour que ma religion soit dominante. C'est tout à fait humain. C'est tout à fait Caïn. Voilà donc deux religions. Alors, dans Luc 18, on lit versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci, le dernier, descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Un pharisien et un publicain. Je peux vous dire que ce n'étaient pas des amis. Hein. À l'époque, les publicains, c'était des gens qui ramassaient des impôts pour le gouvernement romain. Alors, comme c'était des juifs, toute la population juive en Judée prenait les publicains comme des traîtres. On dirait aujourd'hui comme des collabos. Ils travaillent pour Rome pour ramasser des impôts sur nous, leurs propres frères. Comment est-ce qu'on peut être plus horrible que ça? Et certains publicains, comme ils étaient collecteurs d'impôts, ils salissaient, ils salaient un peu plus la note, ils mettaient un peu à côté pour eux-mêmes. C'était le cas de Zachée. Donc, les publicains, c'était des gens qu'on détestait. Mais comme c'était un juif, ils pouvaient quand même aller au temple. Mais je vous prie de croire qu'ils ne sont pas allés bras dessous, ça c'est sûr. Mais ils étaient quand même un. D'abord, ils sont allés au même lieu, ils sont allés tous les deux au temple. Ils ont fait la même chose tous les deux, ils ont prié tous les deux. Ils étaient bien sûr dans la même nationalité, c'était les juifs, des enfants d'Abraham. Ils priaient le même Dieu. Le pharisien et le publicain avaient conscience de prier l'Éternel, Yahvé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui s'est révélé à Moïse, le Dieu qui a donné les 10 commandements, qui les a fait traverser la mer Rouge. Ils priaient ce Dieu-là. Et ils commençaient leur prière de la même manière, au Dieu. Mais alors après ça, ça change. Vous pouvez remarquer quand même le pharisien, c'est vrai, quand nous on connaît l'évangile, on trouve ce pharisien vraiment, enfin, on le trouve détestable, la manière dont il prie. Il y a quand même 3 points de positif chez le pharisien. D'abord, il est reconnaissant. Il dit, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Il se trouvait meilleur que les autres, mais quand même, il disait, c'est grâce à Dieu que je suis mieux que les autres. C'est déjà pas mal. La deuxième chose, et heureusement, il n'osait pas prier ceci à haute voix. Ça aurait vraiment fait mauvais genre, hein, d'arriver dans un lieu, lever les mains vers le ciel et prier haute voix, que tout le monde puisse vous entendre. Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme les autres hommes ici. Oui. Ça fait un peu... Hein? Ça ne se dit pas à haute voix. Il était discret. Mais, en fait, il avait raison. Dans sa prière, il avait raison. Il n'y a rien de faux qu'il a dit. Il n'est pas comme les autres hommes. C'est un homme religieux. Il n'est pas ravisseur, il n'est pas injuste, il n'est pas adultère, il n'est pas un publicain. Il est très comme il faut. Très religieux, très propre sur lui, comme on dit. On dit communément, il aurait donné le bon Dieu sans confession, puisqu'il avait l'air tellement bien. Et puis, il pratiquait sa religion. Les pharisiens pratiquaient vraiment leur religion. Et ils croyaient vraiment que la Bible était la parole de Dieu. Il y avait un autre groupe, les Sadducéens, qui ne croyaient même pas à l'immortalité. Ils ne croyaient pas aux anges, ils ne croyaient pas aux démons, ils ne croyaient pas aux miracles. Ils croyaient en rien. Mais les pharisiens, eux, ils croyaient. Ils croyaient même trop. Ils croyaient tout ce que la Bible disait, et plein de choses que la Bible ne disait pas, mais que la tradition disait. C'était ça leur problème. Mais le pharisien, c'est vrai, il n'était pas un criminel, c'était quelqu'un de très bien, de sa personne, moralement. Quel est son problème? Alors si cette prière est si belle, et si vraie, pourquoi Dieu ne l'a pas agréée? C'est pas ce qu'il a dit qui était mauvais, c'est ce qu'il n'a pas dit qui montre. D'abord, il n'a jamais reconnu son orgueil. Il n'a pas dit, Seigneur, je suis un pécheur. Il n'a insisté que sur les choses qu'il avait faites qui n'étaient pas si mal. Je ne suis pas comme les autres. Oui, mais depuis quand est-ce que se compare aux autres? Quand on arrive devant Dieu, il faut se comparer à Dieu. Et par rapport à Dieu, on est de misérables pécheurs, tous. Et lui aussi. Il n'a jamais reconnu son orgueil. Il n'a fait aucune référence à son besoin d'être pardonné. Il ne ressentait nullement le besoin d'être pardonné parce qu'il ne voyait pas son péché. Il plaidait ses œuvres. Ah, mais on dirait un enfant de Caïn. Très comme il faut, hein, pas meurtrier. Hein. Mais il a la même pensée. je fais moi. Et ce que je fais moi te plaît à toi. Tu es content de moi et je suis content de moi. C'est quand même un peu raffiné. Alors, il professe sa justice. Eh bien, il la conserve, sa justice. Ça s'appelle la propre justice. Un propre juste, c'est quelqu'un qui dit, je suis bien, moi. Je suis juste, moi. Je suis très bien. Et on les rencontre dans la rue, les propres justes. Écoutez, monsieur, je n'ai ni tué, ni volé. Alors, écoutez, monsieur, je suis gentil. Je fais tout le bien que je peux faire. Même quand les gens ne sont pas gentils envers moi, je suis gentil envers eux jusqu'à un certain point. Généralement, ils ajoutent ça. Qu'on ne vienne pas trop me chercher. Mais sinon, je suis quelqu'un de très bien. D'ailleurs, vous demandez à mes amis, j'ai plein d'amis, parce qu'ils me trouvent très sympathique. Et si je n'étais pas sympathique, eh bien, je n'aurais pas mes amis. Alors, monsieur, je vous respecte. Je vous demande de me respecter. Je ne veux plus entendre votre langage, le sang de Jésus, être pardonné. Je suis très bien. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise pour vous le faire comprendre? Je n'ai pas besoin d'être sauvé de mon péché. Propre juste. J'ai ma justice à moi. Ça, c'est le pharisien. Le publicain, il n'osait pas s'approcher du Seigneur. Il est dans un coin. C'était un grand cours. Pour les hommes juifs, où ils pouvaient prier. Chacun pouvait prier, il pouvait. Je pense que le pharisien s'est mis au milieu de la cour pour que les gens le voient bien. L'autre, lui, aille dans un coin quelque part. Et puis, il est recroquevillé sur lui-même et il se tape la poitrine. Il n'ose pas s'approcher. Cet homme est conscient de son péché. Il ne parle que de ça, d'ailleurs, dans sa prière. Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Il regrette son péché. Il dit son péché. Mais surtout, le mot apaisé, c'est la clé de sa prière. Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Le mot apaisé, c'est le même mot qu'on trouve en 1 Jean 2:1. Jésus est une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Dieu est un Dieu saint. Le péché le met en colère. Ce n'est pas une colère genre je tape les quatre membres par terre comme un enfant de 2 ans. C'est une colère, c'est une indignation. C'est quelque chose en Dieu, la sainteté de Dieu ne s'accommode pas du péché. Il ne s'habitue jamais au péché. Il reste toujours aussi saint, aussi intraitable par rapport au péché que la première seconde qu'il a créé l'univers. Il ne change jamais. Et c'est pour ça que l'enfer est éternel. Il ne va jamais dire, bon, dans ma vieillesse, je me ramollis un peu, je peux accepter quelques petits péchés. Non, le péché, c'est comme une réaction chimique avec Dieu. Quand il s'agit du péché, c'est un feu dévorant. Et donc, il faut que la colère de Dieu puisse être apaisée. Mais on ne peut pas l'apaiser en disant, ne sois pas en colère, allez, on se calme. Non! Il faut que le péché soit jugé. Si le péché n'est pas jugé, la colère est toujours là, aussi chaude, aussi terrible que la première seconde. Et quand il dit, sois apaisé, il dit en quelque sorte, Seigneur, si je puis dire ainsi, trouve un moyen que ce soit propice pour toi de me pardonner. Il est en train de dire, Seigneur, tu as raison d'être en colère contre mon péché. Tu as raison de me juger et je le mérite. Mais je veux m'approcher de toi. Est-ce que tu peux trouver un moyen que ce soit propice pour toi de me pardonner? Y a-t-il un moyen que ta colère puisse s'apaiser vis-à-vis de mon péché? C'est une prière qui plaît à Dieu. Et bien sûr, Dieu a vu et a entendu la prière de ce publicain. Et Dieu savait déjà ce qu'il allait faire pour que sa colère soit apaisée. Il allait livrer son fils unique à la croix. Et cette décision-là, Dieu l'a prise avant la fondation du monde. Avant de créer le premier atome de l'univers, Dieu le Père, Fils et Esprit Saint avaient décrété que le Fils viendrait payer pour les péchés de l'humanité qui n'existait pas encore. Et que par le sacrifice du Christ, Dieu pourrait pardonner, justifier et réconcilier l'humanité avec lui-même. Dieu savait ce qu'il allait faire. Et donc, quand ce publicain vient, et c'est pas vis-à-vis de lui-même, ni ce qu'il pense de son péché, il dit, « Toi, je sais ce que tu penses de mon péché, et je sais que ça ne passera jamais, à moins que tu trouves un moyen d'être apaisé. Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Dieu le Père, en regardant ce qui allait se passer dans quelques jours, la crucifixion du Christ, il prend la foi de cet homme et place sa foi dans la crucifixion qui n'a pas encore eu lieu, mais qui va avoir lieu. Et il déclare cet homme juste. Il dit au publicain, enfin, la Bible, Jésus dit, ce publicain est parti du temple, déclaré juste par Dieu. Dieu dit, je te revais de ma justice parce que tu t'es préoccupé de ma colère contre ton péché et tu as cherché comment je pourrais être apaisé. Eh bien, moi je réponds en disant, je suis apaisé par le sacrifice du Christ et comme tu me fais confiance, je te donne cette justice. C'est ce qu'il a fait pour Abraham. Abraham crut à Dieu qui le lui imputa à justice. Et c'est comme ça que toute personne est sauvée. Il y a une foi qui s'élance vers Dieu. Je crois en toi, je crois dans ton sacrifice, ma confiance est dans ton sacrifice. Dieu dit, je te revais de ma justice. En théologie, on appelle ça une justice synthétique. Vous dites, ah ouais, mais synthétique, j'aime pas trop. Vous pensez au textile. Synthétique dans le sens que ce n'est pas une justice qui est authentique. Une justice authentique viendrait de nous-mêmes. Mais un juste synthétique, c'est quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre et qui nous couvre. Et notre justice est une justice d'un autre. Nous sommes revêtus de la justice du Christ. Nous ne sommes pas authentiquement justes. La justice ne vient pas de nous-mêmes, si je puis dire ainsi. Et donc, c'est comme ça que toute personne sera sauvée, parce qu'ils seront revêtus de la justice de Jésus-Christ. Il n'y aura pas du tout de vantardise dans le ciel. Il n'y aura que de la louange et de l'adoration pour le Sauveur. Et donc, il a confessé son péché, il a plaidé le sang, et il a possédé le pardon. Alors, Luc chapitre 16, et vous connaissez ce passage, l'homme riche et Lazare, c'est frappant aussi. Il y avait un homme riche, verset 19, qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcère. Verset 22, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Voilà tout ce que nous savons de la biographie de ces deux hommes-là. Ces deux hommes étaient unis de bien des manières. D'abord, ils étaient voisins. Je veux dire voisins, pas dans le sens habituel du terme. Le riche vivait dans une belle maison, sans doute avec tout ce qu'il faut, de murs autour et tout ça, et un portail comme tout bon français qui se respecte. Et à l'extérieur de la propriété, il y avait Lazare, mais c'était quand même son voisin. Il vivait là. Et dans la poubelle, il pouvait trouver de quoi manger. C'était une existence misérable. Ils habitaient le même quartier, mais pas dans les mêmes conditions. Ils mangeaient la même nourriture. Ah oui, le riche, il mangeait quand c'est sorti du four. Et le pauvre Lazare mangeait la même chose qui était jetée quand ça sortit de la poubelle. Ils sont morts à la même époque, c'est curieux. Lazare d'abord, et tout de suite après le riche. Les deux hommes ont disparu. Oh, pensez bien qu'ils n'avaient pas la même cérémonie d'ensevelissement. Hein. Le riche, c'était quelque chose de bien. Je pense que Lazare était enterré dans la fosse commune. Mais ils sont allés au même endroit. La Bible appelle le séjour des morts. Le Sheol. Mais pas dans le même compartiment. Mais ils étaient deux. Ils étaient très différents. Le riche avait un bel ensevelissement. Lazare n'était peut-être même pas enterré. Mais le riche, dès qu'il meurt, il se trouve dans le tourment. Et Lazare se trouve consolé. Consolé dans le sein d'Abraham. Le riche, il était béni matériellement. Dieu l'a béni matériellement. Et Dieu n'a pas béni matériellement Lazare. Mais il devait y avoir, bien sûr, dans le cœur de ces deux hommes-là, parce que sinon on pourrait croire que tous les pauvres vont au paradis et tous les riches vont en enfer. On sait que ce n'est pas le cas. Mais la richesse de cet homme ne l'a pas amené à la reconnaissance à l'Éternel et à la foi. Mais la pauvreté de Lazare ne l'a pas empêché de croire en Dieu. Et donc, ce n'est ni parce qu'on est riche, ni parce qu'on est pauvre, qu'on va être poussé ou non à croire en Dieu ou ne pas y croire. Ça, c'est une disposition du cœur. Mais Abraham le voit dans la souffrance riche, il voit pauvre Lazare dans son sein, et il lui fait remarquer quand même, tu as eu un temps où tout, tu avais tout. Maintenant, tu es dans le tourment. Lazare, il n'avait rien d'ailleurs, il est toujours resté à ta porte, dans la misère. Regarde, il est consolé. Mais le riche était distrait, égoïste pendant sa vie. Lazare était souffrant pendant sa vie. Le riche était incrédule envers Dieu. Bon, il croyait bien en Abraham. Je suis le fils d'Abraham. Tous les juifs étaient fiers d'être le fils d'Abraham. Isaac et Jacob. Je suis de telle tribu, je suis carré de très bien, je suis riche, je suis juif. Oui, tu es fier de ça. Mais il ne captait pas qu'Abraham était l'ami de Dieu. Il était heureux d'être le fils d'Abraham, mais il ne cherchait pas à être l'ami de Dieu. Il avait d'Abraham les gènes, mais il n'avait pas d'Abraham la foi. Tandis que Lazare, juif aussi, quelque part il avait compris qu'il fallait être l'ami de Dieu. Il avait compris qu'Abraham était l'ami de Dieu, et lui était l'ami d'Abraham aussi, parce qu'il était l'ami de Dieu. Et quand il meurt, où est-ce qu'il se trouve? Dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est une description de cet endroit où allaient tous les saints de l'Ancien Testament. Abel s'y trouvait, Enoch s'y trouvait, pas Enoch parce qu'il est monté, mais Élisée, David, plein de gens, tous les prophètes étaient là, et Abraham les accueillait. Abraham, le père des croyants, l'homme de foi, l'ami de Dieu, et tous ceux qui partageaient sa foi en Dieu se trouvaient avec lui dans la consolation, dans ce Sheol, et de l'autre côté, en endroit de souffrance, où sont allés tous les incrédules de l'Ancien Testament, dont ce monsieur. Mais ce qui est touchant, c'est que ce ancien, parce qu'il n'est plus riche, hein, cet ex-riche, dans le feu, il a un zèle missionnaire. Il veut évangéliser. Mais c'est trop tard. Et il n'ose même pas demander qu'on le fasse ressusciter des morts pour revenir voir ses frères. Mais il demanda à Abraham si Lazare pourrait reprendre vie pour aller visiter ses frères. Et cet homme est convaincu que si Abraham accède à sa requête, et si Lazare veut bien revenir sur la terre pour visiter ses frères et leur dire, je viens vous donner un message de votre frère qui est décédé il y a quelque temps. Il est dans un endroit de tourment, il est dans les flammes. Et il m'a prié de venir vers vous pour vous dire de ne pas le rejoindre dans cet endroit. Il y a là-bas d'où je viens un autre endroit qui s'appelle le sein d'Abraham. Et cet endroit de consolation, c'est de là d'ailleurs que je viens. Et on peut y aller en plaçant toute sa confiance dans l'Éternel. Alors votre frère vous demande solennellement d'arrêter votre indifférence et de vous tourner vers Dieu. Parce qu'il ne veut pas que vous le rejoigniez dans cet endroit de tourment. Et là, pendant que je vous parle, il est tourmenté par les flammes. Ouais. Si ça pouvait se faire, sans doute quelques frères écouteraient. Et on est soufflé quand même par la réponse d'Abraham. Parce qu'Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent, ils ont la Bible. Qu'ils écoutent ces hommes, leur témoignage dans la Bible. Mais le riche, il continue, mais non Abraham, père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Il est convaincu de ça. Et Abraham termine, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Et quand on lit ça pour la première fois, on dit, ah, misère, je ne sais pas, mais est-ce que le père Abraham s'est trompé? Quand même, moi, j'aurais tendance à croire que s'il avait permis à Lazare de revenir, il aurait pu en convertir quelques-uns. Hein, c'est, je veux dire, ça paraît raisonnable. Mais qui en sait plus long sur la foi qui sauve dans cette histoire? Le riche ou père Abraham? Qui sait? Qui peut parler de ce que veulent croire les gens? Mon Dieu, Abraham ou cet homme qui est dans les tourments? C'est Abraham. C'est lui qui sait ce qu'est la foi. Et c'est très touchant qu'il dit à cet homme et qu'il dit à nous aussi. Quand Paul va le dire en Romains, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Abraham dit ici, même les écrits de l'Ancien Testament, si vous les lisez et vous les acceptez et vous y croyez, vous serez sauvés. Parce que tous les saints de l'Ancien Testament étaient sauvés par le Dieu de l'Ancien Testament sans les évangiles. Donc, dans l'Ancien Testament, nous avons un Dieu saint qui demande un sacrifice pour le péché et la foi en lui. Et dans le Nouveau Testament, ce sacrifice est fait et les gens croient dans le sacrifice qui est fait. Mais les gens de l'Ancien Testament croyaient que Dieu pourvoirait lui-même le sacrifice. Et leur confiance était dans ce que Dieu ferait. Même s'ils ne savaient pas ce que ce serait, ils avaient confiance en Dieu. Et donc, pour nous, c'est une puissante motivation et un grand encouragement à dire, j'ai ma Bible, c'est la parole de Dieu. Cette parole peut susciter la foi. Cette parole peut nourrir la foi. Les gens, de toute façon, ils ont la foi. Ils croient quelque chose. Mais pour qu'ils soient sauvés, il faut qu'ils croient ça. Mais comment vont-ils croire ça s'ils n'en ont jamais entendu parler? Et s'il n'y a personne qui le proclame, comment le croiront-ils? Et d'où notre appel et notre mandat. Trois histoires de deux hommes. Vous avez remarqué que les deux hommes ont toujours été unis. Ils étaient côte à côte. Ils n'ont pas fini au même endroit. Aucun. Et c'est pareil aujourd'hui. Le monde est divisé en deux groupes. Ceux qui sont à Christ et ceux qui ne sont pas à Christ.